qui a longtemps vécu en France et qui était une des figures de la RDA. Et qui n'avait pas du tout les mêmes idées que Maxime.
Oui, c'est vrai. Il était vraiment à cause de sa vie comme enfant juif persécuté et en tant que résistant en France. Il était vraiment un communiste très convaincu qui, après la libération 1945, il voulait absolument rentrer en Allemagne pour y construire une société meilleure. Ça veut dire le socialisme. Les idéaux communistes qu'il avait.
Et donc, il était journaliste en France, il était correspondant.
Il était correspondant de ce journal central de la SED, Neues Deutschland, à Paris.
C'était un apparatchik, on peut dire un apparatchik.
D'une façon, oui, parce qu'il a suivi toutes les règles de cet appareil. Il a fonctionné dans ce système. Et en France, il était tout à fait un autre homme qu'en RDA. Il avait gardé pour soi-même un petit royaume qui ne faisait pas partie de cette RDA. Mais pour nous, nous étions trois filles à la maison, pour ses filles, il a toujours voulu que nous croyions à ses idéaux. Et c'est pourquoi c'est devenu très, très difficile, lorsque je suis devenue adulte, de pouvoir discuter avec lui. C'était presque impossible.
Et vous partagez son point de vue ou vous avez commencé à critiquer? Vous avez pris des distances avec ces idées-là?
Oui, à partir de 18-20 ans, j'ai commencé de regarder la réalité en RDA avec mes yeux. J'ai fait mes propres expériences et c'est pourquoi j'avais des opinions propres. Et par exemple, si j'ai voulu parler avec lui sur les prisonniers politiques en RDA, il a dit toujours « non ». Ça doit être pas grave. Moi, je connais les prisons du temps de nazis et on ne peut pas du tout comparer. Et toute la discussion est finie à ce point, par exemple.
Dès le début de février 1933,
Gerhard Léo,
lorsqu'il y avait des fêtes,
1999,
on chantait déjà l'hymne des nazis, lever le drapeau, die Fahne hoch. Et l'hymne allemand, le Deutschlandlied. Et on demandait aux élèves d'élever leurs bras, n'est-ce pas, pour le salut hitlérien. Et moi, j'étais au milieu de mes camarades, et je levais le bras, et je faisais semblant de chanter. Ça, mon opposition se limitait à cela. Mais il y avait une jeune fille de mon âge, dans ma classe, qui était la fille d'un militant communiste. Elle s'appelait Elisabeth May, je m'appelle. Mon père avait défendu son père dans un procès on se connaissait. Et elle n'avait pas levé le bras. Et elle a été appelée devant l'instituteur en classe. Quand nous étions revenus en classe, on dit « tu n'as pas levé le bras et tu n'as pas chanté ». Et il lui a donné une paire de gifles. Et moi, je pensais, il faut que je me lève maintenant et que je dise que je n'ai pas chanté non plus. Mais je ne me suis pas levé. Je suis resté à ma place. C'était une leçon terrible pour moi. Et je me suis dit, ah, ça c'est la dernière fois que je serai un lâche. Je me suis dit, quand une nouvelle épreuve arrivera, je saurais me défendre, n'est-ce pas? Et ça m'a accompagné pendant toute ma vie, je dois dire.
Maxime, comment tu t'entendais avec ce grand-père?
Je ne le connaissais pas très bien parce qu'il était toujours parti. Il était à Paris. Pour moi, c'était le grand-père de l'Ouest qui amenait des cadeaux, qui conduisait Citroën. Donc pour moi, c'était le grand-père de l'Ouest et qui était assez gentil avec moi. Mais qui pouvait devenir aussi assez ferme et assez fermé quand il s'agissait de parler de la politique. Enfin, il y avait des limites. Il aimait bien parler de la résistance, de son combat en France, de la France. J'ai commencé à aimer cette France à travers ses récits, à travers ses histoires. Surtout, une fois, on a fait un voyage en 86 en France, ce qui était quand même assez exceptionnel parce que c'était quand même une chance inouïe pour quelqu'un qui a 16 ans en RDA de pouvoir voyager en France. Et quand on est arrivé en France.